Le bulletin du handicap. Bonjour, mon nom est Kevin Breton et comme le soulignait Clotilde, je suis en onde pour vous livrer le bulletin du handicap. Voici les manchettes en ce lundi 20 juillet. Devoir choisir entre l'amour et le chèque de l'État. De nouveaux locaux à l'IRDPQ. Appel de candidature pour la bourse Étienne Beauclair Banque Nationale. Les équipes de paracyclisme maintenant connues pour les Jeux parapanaméricains. Et Aurélie Rivard décroche un autre titre mondial. Les personnes trop handicapées pour travailler veulent traîner en justice Québec, qui les contraint à renoncer à vivre à deux pour toucher la solidarité sociale. Richard Guillemette, 42 ans, a voulu se marier en 2007, ce qu'il a fait. Depuis, il est privé de ses 940$ mensuels. Celui-ci s'indigne. « Si je veux faire un cadeau à ma femme, je dois lui demander de l'argent. Je suis un sous-homme. » Les personnes trop handicapées pour avoir un emploi ont pour seul revenu l'aide financière de dernier recours. Le problème, c'est qu'elles sont soumises aux mêmes contraintes que ceux qui touchent le bien-être social et qui pourraient reprendre le travail. Pour continuer à toucher leur argent, ces personnes doivent donc renoncer au mariage ou à l'union de fait. Elles ne peuvent pas non plus voyager à l'étranger plus d'une semaine, ni épargner plus de 2 500$, entre autres. Le moindre don est déduit de leur chèque. Frustré, M. Guillemette a décidé de déposer une requête en recours collectif contre le gouvernement il y a 10 jours de cela. La requête vise à le désigner comme co-représentant de toutes les personnes trop handicapées pour travailler et touchant ou ayant touché la prestation sociale. C'est le cas de Lisa D'Amico, 50 ans, l'autre co-représentante proposée. À la différence de M. Guillemette, elle a renoncé toute sa vie à une vie de couple afin de toucher son chèque, qui la maintient sous le seuil de la pauvreté. Pour leur avocat, Maître Gérard Samet, le Québec viole tout simplement les droits fondamentaux de ces gens. Il dit « Ces personnes ne peuvent même pas accéder à un travail à temps partiel. Quelle perte pour l'humanité et quel scandale dans un pays avec une charte des droits. » Les requérants demanderont 10 000 $ pour chacune des 200 000 personnes affectées. Si la requête est acceptée et qu'ils remportent leur bataille, la facture pourrait grimper à 2 milliards pour le gouvernement, mais ils espèrent surtout que le Québec élaborera un régime adapté à leur réalité. Le ministre du Travail et de la Solidarité sociale, Sam Ahmad, n'a pas souhaité commenter. C'est un texte de Baptiste Zapirin pour le Journal de Montréal. Les jeunes de la région de Québec atteints de troubles auditifs, de motricité ou de langue bénéficient de services de réadaptation désormais regroupés sous un même toit dans des locaux beaucoup plus fonctionnels. L'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, l'IRDPQ, a procédé à des travaux de modernisation de près de 28 millions de $ à son point de service situé sur le chemin Saint-Louis qui ont permis d'augmenter de 50 % la superficie de l'immeuble. Le budget et l'échéancier ont été respectés, a précisé mercredi André Deschaines, directrice du programme de déficience intellectuelle et physique au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, auquel est maintenant rattaché l'IRDPQ. Présent à l'inauguration des nouveaux locaux, le nouveau député libéral de Jean Talon, Sébastien Proulx, a souligné que la réadaptation est un peu l'oublié de notre système de santé pour toutes sortes de raisons. Il poursuit en affirmant « Lorsqu'on a un enfant avec une déficience, on veut des services de proximité, avec des spécialistes qui prennent soin d'eux. Le fait de concentrer ces services sur un même site ajoute à la qualité des services offerts. Ces travaux d'agrandissement sont l'aboutissement d'un rêve conçu il y a 10 ans, exprime Mme Deschaines. Le milieu est plus confortable et plus accessible. Les espaces de thérapie sont plus grands. Nous avons également des équipements à la fine pointe. Le centre offre des services de réadaptation à 4 700 enfants et adolescents par année. Selon Mme Deschaines, les délais de prise en charge pour les interventions de premier niveau respectent la norme de 90 jours au maximum actuellement. C'est un texte de Joanne Roy pour le Journal de Montréal. « Pour une deuxième année consécutive, la fondation de l'Institut Louis-Nazareth et Louis Braille et la Banque nationale remettront une bourse de 15 000 $ à un jeune avec une déficience visuelle qui souhaite développer sa fibre entrepreneuriale. Créant l'honneur d'Étienne Beauclair et grâce à la générosité de la Banque nationale, la bourse a comme objectif de stimuler la création de projets, d'idées ou de concepts à travers l'attribution d'une bourse d'envergure visant à soutenir les meilleures candidatures. Pour être éligible à l'obtention de cette bourse, le ou la candidate doit être âgé entre 16 et 30 ans, vivre avec une déficience visuelle et être inscrit dans un centre de réadaptation du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. En plus, il ou elle doit être citoyen canadien et avoir ou avoir un statut de résidence permanente. Les personnes admissibles peuvent soumettre leur candidature à deux catégories, soit démarrage d'entreprise ou développement d'un produit. Les candidats qui sont intéressés doivent faire parvenir leur dossier complet au plus tard le 30 septembre à minuit, soit par courriel ou par la poste. Vous allez retrouver toutes ces informations sur le site fondationenvue.org. Cyclisme Canada est heureux d'annoncer les 16 paracyclistes choisis pour la mise en nomination afin de représenter le Canada aux Jeux parapanaméricains de Toronto qui débuteront dans quelques semaines. Les coureurs canadiens aux Jeux parapanaméricains pourront obtenir des points pour se qualifier pour les Jeux paralympiques de 2016 à Rio. L'équipe présente Robbie Weldon de Thunder Bay, Shelley Gauthier de Toronto, Marie-Ève Croteau de Québec, Marie-Claude Molnar de Saint-Hubert et Daniel Chalifour de Mont-Laurier, qui ont tous participé aux derniers Jeux parapanaméricains de Guadalajara en 2011 et aux Jeux paralympiques à Londres en 2012. Le directeur de la haute performance et entraîneur-chef de Cyclisme Canada, Jacques Landry, a mentionné que les Jeux parapanaméricains sont toujours une excellente occasion d'évaluer où nous en sommes d'un point de vue de compétitivité internationale. Il poursuit en disant « C'est une occasion encore meilleure de le faire devant notre foule locale. Nous espérons que les procédures que nous planifions utiliser pour gagner des médailles auront du succès et apporteront aussi du succès au paracyclisme canadien aux Jeux paralympiques de 2016. » Weldon, une coureuse de déficience visuelle, a gagné 4 médailles d'or aux Jeux parapanaméricains 2011 et la couronne de la course sur route à Londres, tout avec la maintenant retraitée guide Lynn Bessette. Les guides dans l'équipe de paracyclisme pour Toronto sont Audrey Lemieux, Joanie Caron et Cloutier, mentionné précédemment. La chef de la mission, Elizabeth Walker-Young, se réjouit de sa formation. Avec 16 athlètes, ce sera une de nos plus grosses équipes aux Jeux parapanaméricains. C'est bien de voir le retour de plusieurs vétérans et aussi l'émergence de nouveaux venus. Parmi ceux-ci, il y a Ross Wilson, Michel Sametz, l'ancien triathlète Charles Moreau et Nicole Clermont de Sherbrooke. À la dernière journée de compétition des championnats du monde de paranatation disputée à Glasgow, Aurélie Rivard a décroché un autre titre de championne du monde, cette fois celui du 400 mètres libre de la catégorie S10. Rivard a conquis de façon déterminante avec un temps de 4 minutes 34 secondes et 6 centièmes, soit un peu moins de 5 secondes d'avance sur sa plus proche adversaire, la Française Elodie Laurendi, et 5,56 secondes sur la troisième, Oliwa Jablonska, de la Pologne. Elle s'est exclamée « Je ne pourrais pas être plus heureuse, je me bats pour ce titre depuis 3 ans. C'est la première fois que je bats mon record personnel depuis Londres, et c'est la première fois que je bats ma rivale française », a exprimé la championne du monde. J'y ai cru seulement quand j'ai touché le mur et je ne pouvais pas y croire. Encore, je me suis dit qu'il y avait peut-être eu une erreur. Aurélie décrit ensuite son état avec enthousiasme. Je m'étais préparé mentalement à finir deuxième. Après 200 mètres, j'ai accéléré et je me suis aperçu que Laurendi reculait. À 300 mètres, quand j'ai vu que j'étais en avant, j'ai tout donné. Je n'étais pas morte. J'étais sur un high. En repensant à la dernière semaine, Aurélie est ravie. L'athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu affirme « Ces championnats du monde ont été incroyables. Ma meilleure compétition à vie en paranatation. 2 médailles d'or et 2 d'argent. Je ne pouvais pas espérer mieux. » Son coéquipier Benoît Huot avait arraché la deuxième place de cette même épreuve chez les hommes quelques minutes plus tôt. Donc c'était un texte de Sport.com. C'était tout pour le bulletin aujourd'hui. Les organismes intéressés peuvent faire parvenir leurs nouvelles à canalm@vusevoix.com. Merci beaucoup et à demain.